Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. Donc, nous allons tous dire chacun, vous souhaitez une bonne année 2015.
Bonne année.
Bonne année à tous.
Catherine et Boris.
Bonne année.
Voilà, bonne année. Et on commence par l'épiphanie. L'épiphanie, il y a trois lectures. C'est une tradition bien connue, l'épiphanie. On peut chercher ce que ça veut dire, on va le faire. Mais c'est vraiment l'idée des mages. Alors, on commence par Ésaïe.
Alors, Ésaïe 60, versets 1 à 6. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Pardon.
Voilà, ça c'est le premier texte. Donc il est bien dans l'axe des rois mages, hein, finalement. Donc, deuxième lecture.
Dans Éphésiens au chapitre 3, les versets 2 à 6. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile.
Là, il y a à faire, hein, rien que ça. Et enfin,
l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux du Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin.
Donc ça, après Noël, après bien des problèmes, il y a quand même ce petit passage qui est important, c'est l'étoile qui a guidé les rois mages. Les rois, on n'est pas sûr, les mages, on est sûr. Qui viennent de l'Orient, c'est sûr aussi. Et qui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe aussi. Donc, et à ce côté-là, cette vision qu'ont eu ces gens-là, qui n'avaient rien à voir avec le peuple juif, ce qui est important, ce n'étaient pas des gens qui étaient de l'élite, qui sont venus quand même, qui ont deviné, qui ont reçu, comment peut-on dire, ils ont été avertis pour qu'ils suivent une étoile guide. Il y a un avant quand même pour poursuivre. Qu'est-ce qui les a fait suivre, ton avis?
Ben là, en tout cas, c'est leur venue avec les cadeaux, la myrrhe, l'encens, ça fait exactement écho à la prophétie d'Ésaïe, voilà, que Boris a lu. Voilà. C'est-à-dire, ils viendront du fond du monde t'apporter sur leur caravane leurs offrandes, quoi. Après, il y a en Israël une attente d'un Messie, d'une ère messianique, d'une ère nouvelle. Mais il y a aussi cette attente dans le reste du monde, pas exactement la même attente, mais une forme d'attente messianique d'un être sage, d'un être de lumière, d'un sauveur, quoi. Et c'est d'ailleurs comme ça, par métaphorisation, qu'on en vient à dire aujourd'hui, par rapport à tel ou tel homme politique ou tel sportif de telle équipe de foot, ça va être le sauveur, c'est le Messie, on attend son retour ou son transfert. Mais en tout cas, les mages étaient des sages, des scientifiques, des astronomes, des docteurs. Ils avaient cette culture universelle qui, dans l'Antiquité, permettait de savoir un peu tout sur tout. Contrairement aujourd'hui, où on sait un peu tout sur rien, ou rien sur tout, comme on voudra. Et du coup, ils avaient aussi, comme élément de sagesse, de lire les livres des prophètes des autres civilisations.
Voilà.
Est-ce que c'est une habitude que nous avons encore de nous intéresser aux prophètes des autres civilisations? On pourrait dire qu'on n'a pas besoin, puisqu'on a déjà les prophètes qui ont annoncé le Messie,
oui,
et les mages qui ont validé, etc. C'est vrai, mais on pourrait avoir la curiosité aussi de s'intéresser aux traditions prophétiques des autres nations.
Des autres, c'est sûr. Oui, là, dans le texte de Matthieu, il y a la naissance, il y a la démarche de ces mages, il y a aussi la démarche d'Hérode, puis il y a le départ.
Parce que ces mages, ils viennent de l'Arabie. Alors ce que je disais, c'est comme si on pouvait faire nous aussi un petit retour vers l'Arabie, retourner vers les mages. Voilà. C'est pas retourner vers le Christ, c'est bien différent, on est d'accord. Mais c'est intéressant aussi en soi, puisqu'ils sont intéressants.
Voilà, donc on va essayer de l'approfondir.
Mais il y a aussi les trois mages, quand même, représentaient à l'époque chacun un des continents, puisqu'il y avait trois continents connus. Et Gaspard, c'était...
Oui, mais les noms sont venus à la suite des ans. Dans la Bible, tu ne trouves pas de roi mage. On parle de mage, point. Trois mages. Et alors un jour, il a fallu qu'on trouve des noms aux mages. Alors un jour, on a inventé.
Mais cette tradition qui est évoquée à l'instant, que les mages viennent des continents, que sont des rois et qu'ils ont des noms, elle est dans la perspective quand même du texte, même si elle n'est pas dans le texte, parce que justement, c'est cette attente messianique lue dans Ésaïe qu'on pourrait relire un petit coup, juste pour l'entendre un tout petit peu, un extrait ou un autre, soit l'ensemble.
Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras et tu te réjouiras.
Voilà. Juste pour bien faire remarquer que ce que fait l'évangéliste Matthieu, c'est de montrer c'est accompli. Les anciennes prophéties se réalisent pour de vrai, pour de bon. Alors d'ailleurs, dans le christianisme, ça a été pendant longtemps un argument pour dire que cette révélation est vraie. Elle est historique et c'est un miracle que c'est été annoncé à l'avance, mais ça s'est vraiment accompli. C'est la vision comme ça, très historique de la révélation. Un jour, des mages même l'ont enregistré que c'était arrivé. Et c'est passionnant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins sensible à... Enfin, je sais pas ce qu'il en est. Qu'est-ce que t'en penses au côté accomplissement? Puisque tu lisais Ésaïe, je lisais Matthieu qui dit c'est accompli. Du miracle que ce qui avait été annoncé dans la nuit des temps, que des gens se lèveraient pour voir la gloire de l'Éternel, seraient conduits par une lumière. Ça, c'est ce que tu as lu dans Ésaïe. Et ce que je lis dans Matthieu, c'est qu'eux, ils suivent une étoile qui s'arrête au-dessus d'une maison. Et c'est là où ils disent, c'est là qu'est la gloire de l'Éternel. Et finalement, l'Éternel en tant que gloire puissante, puisqu'il lui offre les hommages qu'on rend à un roi, avec la myrrhe, l'encens et l'or. Je ne sais pas ce que tu penses, côté c'est... miraculeux de l'accomplissement. Quoi.
Les rois sont inscrits dans le livre d'Ésaïe.
Des nations. Les mages.
Non, là, ma traduction, c'est « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Je mets de la musique.
Jésus.
question qui m'a été posée, c'est est-ce que la manière dont on perçoit aujourd'hui l'accomplissement de prophéties, de l'annonce d'un miracle, et après son accomplissement dans le temps, bah, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la Bible ou dans la mythologie grecque, romaine et d'autres mythologies. Ce sont des choses qui semblent, enfin pour moi, je ne sais pas, qui semblent à peu près normales dans le contexte, c'est-à-dire que...
De l'époque.
Le contexte de l'époque, je ne sais pas, parce que c'est moi, c'est moi qui le dis, mais après...
C'est... Oui. Ce qui est important aussi, comme il ne faut pas négliger dans le texte et puis dans l'histoire, c'est que les mages sont arrivés pour voir un enfant, un nouveau-né. Donc, qui va gêner Hérode. Mais c'est pour ça, c'est que oui, mais... quand je fais une liaison avec la prophétie, je me dis qu'effectivement, la prophétie s'est accomplie. Et en fait, quand Jésus a, dans son ministère, de toute sa vie terrestre, il n'a pas dit « je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir ». Donc Jésus, en fait, dans toute sa vie, dans tout son enseignement, c'est une affirmation et un complément et une interprétation, voire peut-être même une interprétation de la loi, de tout ce que les prophètes ont pu dire, ont pu annoncer.
On a changé de registre là. C'était, est-ce que le fait que ça soit annoncé à l'avance et que ça se réalise vraiment, c'est pertinent? La réponse était oui et non, plus ou moins, on est habitué à cette présentation des choses. Et puis toi, tu dis, en revanche, le thème de l'accomplissement reste important, mais cette fois au plan interprétatif de la loi et de l'accomplissement moral de la loi, c'est que ça, fait Jésus. Voilà. Bon, alors on a changé de question. Alors une autre forme de question sur les mages, ça serait, est-ce que le fait que Dieu passe d'une révélation comme ça, lumineuse, universelle, il est universel lui finalement, et ça passait par une histoire nationale d'Israël, et est-ce que le fait que maintenant ça passe la connaissance de Dieu à toutes les cultures qu'il représente, ces mages. Donc aujourd'hui, finalement, Dieu se révèle tout autant à ceux que représentent les mages, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est l'Arabie. Et puis aussi, dans la corne arabique, l'autre continent, quoi, pas l'Europe. On n'est plus autour du bassin méditerranéen et en Europe avec Paul. Là, c'est le reste du monde qui connaît Dieu, normalement, c'est vrai, indépendamment des miracles des prophètes d'Israël. Et moi, je trouve que ça démocratise Dieu, mais est-ce que le fait que ceux qui valident la révélation de Dieu, là, ce soit des gens d'Arabie, est-ce que ça te paraît plus pertinent, alors? Des étrangers?
Moi, dans ce sens-là, oui.
Ah voilà, mais parce que ça s'entend pas à la radio non plus, mais ça s'entend, je pense, dans ta voix, parce que aussi, toi, tu es d'origine étrangère, de quel pays? Togo. Et les mages, ils sont plus togolais que belges, hein, clairement. Ouais. C'est-à-dire par là qu'ils représentent vraiment les autres nations que les nations méditerranéennes et européano-méditerranéennes, quoi. Oui. Qui ont des souches culturelles et aussi ethniques, somme toute assez proches.
C'est pour ça que dans la
là, on est ailleurs.
Soit on a donné des noms.
Oui, pour les trois mages, pour moi, c'est les trois continents connus, l'Europe, l'Asie et l'Afrique.
Oui, l'Amérique n'était pas encore découverte.
Oui, bah oui.
Mais c'est vrai.
Après, une légende viendra qu'il y a un quatrième
sûr,
mage qui était en route, mais lui, il partait pour le Nouveau Monde, donc il ne serait jamais arrivé.
Ce que je trouve peut-être moins pertinent pour aujourd'hui, puisque c'est en le discutant, enfin, tu vois, ouais. Tu dis oui, c'est qu'aujourd'hui, le message, mettons, s'il y a une vérité sur Dieu, une vérité spirituelle qu'on peut trouver dans ce monde, aujourd'hui, elle est plus nationale en Israël, elle est plus culturellement de Jérusalem ou à côté de Jérusalem, parce qu'on est à côté là, on est à Bethléem, on est en Jordanie si on veut. Elle n'est pas non plus paulinienne, européenne, blanc, elle est avec les mages, elle n'est plus d'une nationalité, voilà, comment c'est plus la provincialisation de la religion dans l'Europe et tout ça, ça devient vraiment universel, quoi. Les mages sont de couleur, les mages sont arabes, les mages sont africains. Je le dis en tant que bibliste, mais je pense que culturellement, ça devrait nous apporter quelque chose. Voilà.
Ils sont blancs aussi.
L'évangile des mages. Alors tu les vois blancs, mais parlons un peu.
C'est blanc, bah... c'est un ensemble de plates, enfin de civilisations.
Leurs cadeaux, ce sont les cadeaux traditionnels de l'Arabie. Et puis l'Arabie, cette zone culturelle assez large, va jusqu'à l'Afrique de l'Est, jusqu'à l'Éthiopie, tout
oui,
ça. Pas le Togo, par contre, je pense pas.
Non. Mais ça veut dire
après,
aussi.
Après, c'est l'histoire de l'Afrique, parce
oui,
que c'est
aussi. C'est pour ça que
c'est-à-dire
que des mages qui sont venus parmi le peuple juif. Mais ils n'étaient pas du tout religieux. Ils n'étaient pas dans la religion, ils ne connaissaient pas la religion.
Et ils ramènent une connaissance. Ils ramènent peut-être une confiance qu'il y a un Dieu dans ce monde. Confiance qu'ils sont allés puiser en suivant l'étoile, en constatant l'accomplissement d'une prophétie qui est d'ailleurs très bizarre. C'est la prophétie, elle est dans le livre des nombres. Elle ne dit pas exactement ça. Elle a une histoire bizarre. La tradition des manuscrits de cette prophétie du livre des nombres est très multiple. Il y a plein de manuscrits, et il y en a un peu partout des copies de ces manuscrits. Il y avait une tradition comme ça, qu'un astre indiquerait, etc. Mais ce qui se révèle là, moi je dirais, c'est l'universalité de l'autocommunication de Dieu, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus dans telle ou telle province du monde, maintenant, c'est-à-dire dès ce moment-là. Et pourtant, pendant 2000 ans, on va continuer quand même de provincialiser. Là, je fais l'évangile des mages, en quelque sorte. Ouais. La révélation vraiment universelle qui va jusqu'au bout de la terre, et c'est ce qu'annonçait Ésaïe. Et au temps d'Ésaïe qui était inimaginable.
C'était inimaginable.
Et au temps de la naissance de Jésus, ça l'était tout autant, je crois. Et il a fallu la Pentecôte, etc. Et je crois, même 2000 ans après, visiblement... Il faudrait que je donne un exemple, mais vous allez penser que j'ai des exemples toujours les mêmes, quoi. Mais on a un retour vers les mages, je dirais, quand le chef d'État de la première puissance du monde, qui est le monde païen, finalement, si on veut, retourne au Caire faire un discours chrétien en disant qu'il y a culturellement et spirituellement quelque chose à redécouvrir de l'Orient... Et que ce chef d'État est un chrétien, c'est Barack Obama.
Ouais.
Et c'est-à-dire, il est l'heure d'une relecture théologique, libre de tous les préjugés moraux, politiques, raciaux, tout ce qu'on a s'est trimballé dans la culture, qui est une culture païenne. Je trouve qu'un regard chrétien neuf sur la révélation faite aux mages permet une relecture et aujourd'hui un dialogue avec les autres cultures à neuf. Les mages, au moins, nous laissent ça.
Une pause. La communication, bien sûr, maintenant, il y a une chose qui se passe en bout du monde, paf, on le sait tout de suite. Tandis qu'à l'époque, la transmission, l'information, la communication, c'était pas comme maintenant. C'était à d'autres chameaux. C'était par les vols des pigeons, à cheval ou autre chose. Mais il faut voir que cette naissance-là a changé la face des choses, a changé la face du monde. Parce que c'était plus pour un peuple que Jésus est venu, mais c'est pour le monde qu'il est venu. Et ça, c'est difficile, voilà.
Boris nous disait pendant la pause musicale, et un détail qui peut intéresser les auditeurs, et en particulier ceux dans leur voiture, c'est que les Arabes, qui étaient les mages, avaient une particularité culturelle de l'époque, c'est-à-dire en premier siècle de notre ère, il y a 2000 ans. C'est bien le cas ?
Ils étaient très en avance sur la science et sur la médecine. Dans leur ville, il y avait une université dans laquelle il y avait des réflexions, des conférences et tout ça, pour apprendre et comprendre certains phénomènes scientifiques. Et donc... l'étude des astres aussi, ça faisait partie de leur spécialité. En vrai.
Et des textes anciens aussi, et des langues des autres aussi, et ça va être vrai. Je ne veux pas faire d'erreur dans les dates, mais il me semble jusqu'à Averroès, le grand sage arabe avec le grand califat, et c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a des chiffres arabes. Le texte israélite des prophéties, des prophètes qu'on a lu, Ésaïe, ce sont des grammairiens arabes qui vont en fixer la vocalisation et la grammaire, du coup. Grammairiens arabes, les massorètes. Ce n'est pas des juifs, ce n'est pas des européens, ce sont des arabes. Et au Xe siècle, ils fixeront la grammaire du texte d'Ésaïe que nous venons de lire. La grammaire écrite, par la vocalisation. Hein. Enfin, c'est peut-être trop dire la grammaire. La forme écrite actuelle définitive avec ses voyelles. Je disais, moi, la grammaire, parce qu'une fois qu'on a la voyelle, on a la conjugaison. Et aussi les accords entre les mots. Et comme tu disais, l'astrophysique, le droit...
médecine, les mathématiques.
Je pense que ce qui est important, c'est autant les Grecs, c'était la philosophie, c'était un truc.
Ce sont les Arabes qui feront redécouvrir Aristote à l'Europe, quelques plus tard, après les mages.
Il y a un réveil qui se fait, il y a une confrontation, il y a un amalgame qui se fait autour de cette naissance, cette chose qui se passe à un instant. Pour nous, c'est 2000 ans, pour d'autres pays, les dates sont différentes. Mais...
Et c'est formidable aujourd'hui, moi je pose un peut-être quelque chose d'assez concret, c'est que dans cette société, 2000 ans plus tard, aujourd'hui à Dreux, par exemple, dans Drouet, on peut dialoguer les sciences philosophiques, morales, politiques, spirituelles, avec les Arabes à Dreux. Ouais. Alors, il y a une association, moi j'oublie le nom, ILFA, celle avec qui on dialogue, on va faire une marche, un pique-nique, ils font des concerts, conférences. On va citer la rue, comme ça sera facile à retrouver. Rue Moronval, voilà. Et au passage, un petit coucou, quoi, hein, de l'émission de la paroisse protestante à nos amis de l'association culturelle arabe-turque. Et c'est-à-dire qu'il y a une haute culture, y compris spirituelle, et une haute recherche.
Et avec d'autres aussi, bien sûr.
Alors, on va juste un petit peu parler pourquoi l'inquiétude d'Hérode. Je pense que c'est important de dire justement, puisque c'est un événement qui touche le monde et non plus un peuple. Hérode, il n'était pas juif en plus.
Non, mais Hérode, c'était un tyran. Et le voilà. Pays était complètement un sac exsangue, les gens n'avaient plus faim. C'était le roi, il méprisait tout le monde, il piquait l'argent à tout le monde. Et c'était le roi, et il apprend qu'un nouveau roi arrive.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est?
Il était célèbre pour sa cruauté. Hérode, il a fait massacrer des gens. Galilée, l'évangile nous en parle. Je crois qu'il a fait aussi assassiner des membres de sa famille.
Oui.
C'était un tyran de première, comme.
Ouais, bah, puis il a fait mettre en prison Jean-Baptiste aussi.
Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que.
Il commence à avoir la trouille, il a dit allez donc voir. Qu'est-ce que c'est que ce roi?
Venez faire votre rapport, que j'aille moi aussi.
Il donnait à manger de l'opposant politique à ses lions.
Mais là, justement, là aussi, c'est la preuve que les mages, ils ont été sages, ils ont été avertis par quels moyens, on ne sait pas encore, mais ils ont été avertis et ils sont rentrés chez eux en ayant en vue cette naissance, ayant vu ce nouveau-né par un autre chemin. C'est important de dire ça.
Par un autre chemin, ils ne sont pas revenus voir le roi Hérode. Ils ont suivi leur route.
Techniquement, voilà, ils ont évité justement le piège, nous avertit le rédacteur de l'évangile de Matthieu, certainement Matthieu donc, qu'ils sont passés par ailleurs pour éviter l'embrouille. Enfin, si vous me passez l'expression, voilà. Je ne sais plus les termes exacts, mais ils ont évité de se faire instrumentaliser.
Ils ont été avertis en songe.
Avertis en songe. Et alors souvent, on en fait du coup, bon, il y a cette lecture matérielle, ils ont pris une autre route. Facile, on va par un itinéraire, on repart par un autre, on fait tout ça pour éviter des bouchons ou un problème. Mais au plan spirituel, ça a souvent été exploité dans les prédications et les sermons ou la méditation sur le fait que la naissance de Jésus-Christ, la vie nouvelle que Dieu donne, permet de prendre un chemin de vie nouveau. Ou bien à ce moment de Noël et de Nouvel An, on peut commencer à envisager que notre vie va recommencer autrement. Et on va repartir par un nouveau chemin de vie. Telle nouvelle pratique, arrêter telle mauvaise pratique ou telle mauvaise fréquentation, pourquoi pas. Là, c'est le cas des mages, ils vont éviter de fréquenter Hérode de trop près. Et repartir par un autre chemin dans la vie, c'est tout un programme. Recommencer de nouvelles études, recommencer une nouvelle année d'église, une nouvelle année comptable pour Radio Grand Ciel, pour notre paroisse.
Puis 30 ans après, il y a des disciples de Jésus qui vont partir à travers le monde.
Et aussi par un autre chemin spirituel, voilà. Par exemple, avec des idées nouvelles, ouais. Des envies nouvelles.
Parce que c'était important. Bon, avant de nous séparer, on pourrait peut-être voir aussi qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, aujourd'hui, de ce passage. Est-ce qu'on peut transposer ce récit-là, aujourd'hui, pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour nous, aujourd'hui, ce petit passage de...
On trouve une réponse un peu dans l'Épître aux Corinthiens. Quand on cherche souvent à interpréter les prophéties comme dans Ésaïe, on en voit l'accomplissement dans les évangiles. Et puis, le développement de sens sur ce que ça peut apporter. Vous voyez, on se faisait signe, nous, dans le studio, dans le montage, on se fait signe autour de la table et puis on cherche à développer. On trouve chez Paul le développement que je lis, si c'est bien le passage qu'on a lu tout au début de l'émission, c'en est un autre. Mais on va l'avoir par Paul. Parce que là, on donne un repère d'interprétation biblique. Dans les Épîtres, on trouve des développements. Alors, c'est la lettre de Paul à Éphésiens ou des disciples de Paul aux Éphésiens. Dans cette lettre-là, c'est le côté à nouveau mystérieux qui est mis en avant. Le côté qui nous échappe, quoi. Il dit, par exemple, en lisant, que je vous confirme le mystère duquel je vous ai parlé en quelques mots. Et ce mystère, c'est que les non-juifs, donc là, ceux qui sont représentés par les mages, toutes les autres nations, sont co-héritiers des juifs, c'est-à-dire des promesses, et qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse. Voilà, il le déploie, Paul. Moi, je le déployais vers, je dirais, les nations, vraiment au sens. Ouais. Et Paul, lui, il ramène vers l'unité avec les juifs, de toutes les nations, ouais. En tout cas, et aussi avec Dieu. C'est vrai que c'était son ministère particulier. Lui, il estime que c'est une révélation qui est portée par l'Esprit. Ce qui peut nous consoler un petit peu parce que le monde ne marche pas. Ni les juifs ni les autres ne sont spécialement unifiés, bien au contraire. Et les différentes familles de l'humanité non plus. C'est ce qu'on voit là de manière terrible en cette période de Noël en regardant les informations. Et le développement que Paul en fait revient à une généralisation. Puis alors la notion de mystère, alors là, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? En cette période de Noël, moi je vois que l'après-midi, parce qu'il y a ma fille qui n'a pas école, il y a des films sur la magie de Noël, de l'amour, du mystère. Bon, là on le voit à un niveau sentimental dans les comédies américaines, mais il y a un mystère, il y a plus quoi que des rationalités qu'on est en train d'échanger. Et là je lance le terme, puisque je suis allé chercher qu'y a-t-il au-delà de la réconciliation des cultures ou du dialogue spirituel que représente la venue des mages. la révélation d'un mystère, nous dit. Alors Jean Breil, en disant l'esprit de Noël, le mystère de Noël, finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Oui, c'est pas seulement une révélation, c'est vraiment une connaissance. On cherche à se comprendre. Nous, combien de fois, on cherche à déjà découvrir les autres religions. Pourquoi les principes religieux que l'on a se retrouvent, ou comment se retrouvent-ils dans d'autres religions? La sagesse, l'amour, tout ce qui fait le bonheur des hommes. Parce que c'est ça qu'il faut rechercher. Or, on voit bien qu'à l'heure actuelle, dans notre époque, ce sentiment de mépris, de haine, de discussion, fait qu'on a des difficultés à vivre. Je pense que c'est maintenant, pour moi, ce texte-là me fait penser à une nécessité de bien écouter la bonne parole, et surtout de suivre cette parole-là, plutôt que d'essayer d'en tirer des avantages qui sont pas réels, des avantages de pensée.
C'est ce que disait David tout à l'heure, ce mystère avec les mages. C'est le mystère des mages, c'est quand même un message à chacun. Ils n'ont pas suivi Hérode parce qu'ils ne voulaient pas suivre la loi un peu du profit, du marché, de l'enrichissement personnel, mais plutôt à annoncer la bonne parole. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter à ce jour, nous. C'est que chaque chrétien doit s'engager pour annoncer l'évangile.
Annoncer une nouvelle vie.
Annoncer vie en allant vers les autres, comme les mages ont pu traverser tant de pays pour arriver jusqu'à Jésus.
Et puis c'est la première émission de l'année, je crois, qu'on propose aux auditeurs de Radio Grand Ciel. C'est aussi l'occasion de vous souhaiter une bonne année, qui évite les Hérodes, où la magie de l'amour et du dialogue, du bonheur de Noël vous suivent.
Et la nécessité de réfléchir à la nouvelle vie.
Et Boris, peut-être aussi, un petit vœu pour la nouvelle année.
Bonne année.
Bonne année.
Et elle sera dure. Voilà, à la semaine prochaine.
Et hop, ça y est.